Tov, Erev Tov les Koulam. Erev Tov les Koulam. On revient dans notre étude du livre de Vaïkra après une énorme pause et on reprend notre étude à une période très très compliquée et très particulière. Notre étude est évidemment dédiée à la réussite de nos soldats, de notre État. On gagne cette guerre de la meilleure des manières, de la plus éclatante, pour la réfoua de tous les blessés. Le retour à la maison de tous nos otages,
amen.
Comme ça qu'on dit en français.
Voilà.
Et pour l'élévation de l'âme de tous les disparus durant ces attaques terribles.
Et on peut rajouter
et on rajoute,
l'Elul Nishmat, le grand rabbin, Claude Shlomo Brami.
Et donc l'Elul Nishmat du Rav Claude Shlomo Brami. Très bien.
Brami.
Et bien donc, on revient dans notre étude du livre de Vaïkra qu'on avait commencé avant l'été. Donc on ne se rappelle plus.
Ouais.
L'année dernière, Bichlal.
Ça existait.
En 5783. Et on avait étudié durant 5 cours, si je me souviens bien.
6
cours déjà. On a étudié toute la paracha de Vaïkra. Alors, je ne vais pas refaire toute la paracha de Vaïkra, parce que vous pouvez écouter les cours. Mais je veux simplement rappeler une chose. Le livre de Vaïkra, de manière générale, est très différent du livre de Bereshit et Shemot, où la pnia, le dévoilement, vient du haut vers le bas, alors que dans le livre de Vaïkra, la volonté, c'est que l'homme s'élève du bas vers le haut. C'est-à-dire que le premier verset de Vaïkra, c'est vrai que Dieu appelle Moshe, mais c'est pour que lui monte. Et donc, dans le livre de Vaïkra, ça va être la réponse, si vous voulez, à Bereshit et Shemot. Le livre de Vaïkra, c'est également les Korbanot. On avait expliqué en long, en large et en travers le pourquoi du comment des Korbanot. Mais ce qu'on a pu voir dans la paracha de Vaïkra, eh bien, c'est qu'il y avait plusieurs sortes de Korbanot avec plusieurs idéaux différents. D'abord, le Korban n'est pas forcément un sacrifice expiatoire. Il y a des Korbanot qui sont pour les Karev, pour nous rattacher à Dieu. D'accord ? Comme on a le Korban Ola, le Korban Mincha, le Korban Shlamim. Certains sont complètement pour Dieu, d'autres sont mangés par les Kohanim, d'autres par celui qui amène le Korban, qui montre un attachement et une élévation spirituelle. Et puis il y a aussi, si jamais quelqu'un a fait une faute, et il y a plusieurs sortes de fautes. On a parlé également du Korban Toda. Ok ? Donc ça, c'était tout ce qu'on a vu dans la paracha de Vaïkra. Je vous ramène au 6 cours qu'on a fait l'année dernière. Et là, on arrive dans la paracha de Tsav. Et le problème, il est que, on va le voir, la paracha revient quand même beaucoup sur ce qu'on a dit dans la paracha de Vaïkra. C'est-à-dire que la paracha de Tsav, c'est de nouveau la liste des corbanotes. Et vous allez me dire, mais pourquoi cette répétition? D'autant plus que vraiment, il ne semble pas y avoir beaucoup de changements. Alors, il y en a des changements, on va mettre le doigt dessus, mais c'est bizarre. Comme si il y avait un même sujet qu'on veut traiter de deux façons différentes, de deux manières différentes, avec deux facettes différentes.
Est-ce que dans les titres, Vaïkra ou Tsav, il y a une...
Bon, ben là, pour le coup, le titre, c'est le premier mot important de la paracha. Vaïkra el Moshe, ou alors Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Tsav el Av. Mais tu n'as pas totalement tort quand tu parles du titre. La première question pour répondre à notre problématique, c'est quand la paracha de Vaïkra a été donnée à Moshe et quand la paracha de Tsav a été donnée à Moshe. Parce qu'il faut bien faire la différence entre la façon dont ça a été écrit, l'ordre qui a été dicté à Moshe dans la Torah, où on voit que ben voilà, dans le troisième livre, il y a d'abord Vaïkra, ensuite Tsav, mais ça ne correspond pas forcément à l'ordre chronologique dans lequel les événements se sont passés. D'accord ? Et donc, je pose la question. Quand est-ce que se passe la paracha de Vaïkra? Et quand est-ce que se passe la paracha de Tsav? Ben pour ça, il faut regarder dans la paracha. Paracha de Vaïkra, ça se passe quand? Où Moshe se trouve-t-il lorsqu'il reçoit la paracha de Vaïkra?
Il est
Be'ar Sinai. Rappelez-vous le premier verset de la paracha, je reprends. Vaïkra el Moshe ve'daber Hashem elav me'ol moed les morts. Et où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont?
On
ne
va pas repasser.
Non, on ne va pas repasser surtout. Ils sont Bemargelot Har Sinai. Ils sont au pied du mont Sinaï. Donc il y avait déjà l'Ohel Moed. Donc on est après, après le don de la Torah. On est, je vous rappelle qu'ils ont passé un an au pied du mont Sinaï après Mahamad Har Sinaï. Donc pendant cette année-là, c'est le dévoilement de la paracha de Vaïkra. La paracha de Tsav, elle se déroule à un autre moment. Eh oui. Elle se déroule à un autre moment et elle se déroule bien avant la paracha de Vaïkra. D'où on le sait? Eh bien, je vais simplement vous demander d'aller juste tourner la page. Il faut. Attends. Où est-ce que c'est? Non. Efozekatov. Je ne me rappelle plus. On va y arriver. À la fin d'un parasha? Non, c'est possible?
Ainsi l'Éternel.
Non, c'est. De quoi tu me parles? Où tu es?
Oui.
Oui, bien sûr, c'est au Mont Sinaï. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand au Mont Sinaï? Parce que au Mont Sinaï, on a dit, c'est un an. C'est un an de temps. Ah. C'est-à-dire, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand. Ah, voilà. Iné. Tac. Je retrouve pas mon verset. C'est très bien. C'est très intelligent. C'est très très intelligent. Je retrouve pas mon verset. Ça fait plaisir. Tout va bien. Pas de problème. On coupera. Mais non, mais tout va bien. Tout va bien. Pas de pression. Sans pression. Sinon, je vais vous le dire. Et quand on y arrivera. Mais. Voilà, discutez entre vous pour l'instant.
Alors, attends, vers.
Ah voilà, j'ai trouvé, excusez-moi, tout va bien. Chapitre 7, verset Lamed Zayin. Chapitre 7, verset, donc Perek Zayin, Pasuk Lamed Zayin. Bon, c'est la conclusion des Korbanot. Et on nous dit, Zot à Torah, la Ola, la Mincha, la Chatat, la Hacham, ça c'est tous les corbanotes qu'on a déjà vus dans la parasha de Vaikra, Vela Milouim, Vela Zevach Hashlamim, Asher Tziva Hashem et Moshe, Be'ar Sinai, Be'yom Tzavoto et Bnei Israël, la Akriv et Korbenehem, la Hashem, Be'midbar Sinai. Il y a quoi comme corbanote aussi ici qu'on n'a pas vu dans la parasha de Vaikra? Milouim. Alors, rien à voir avec les Milouim. Mazé Korban à Milouim. Là, tu parles de ce moment-là, mais moi, je te demande une définition plus générale. Korban à Milouim, c'est le Korban qu'on fait pour l'inauguration de la Avoda. Donc, il y aura des Milouim au Mishkan, il y aura des Korbanot à Milouim au Bet HaMikdash HaRishon et au Bet HaMikdash HaSheni.
Mais lors de l'inauguration,
on fait ce qu'on appelle Korban à Milouim. Pourquoi? Parce que Akohanim Memalim et Ayadaim. C'est Malé. Milouy Ayadaim. C'est-à-dire, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ici des Korbanot qui font référence à un moment où ça se passe bien avant. Puisqu'on est avant cette année où on se truc. Ça se passe à l'inauguration du Mishkan. Donc, chronologiquement parlant, la paracha de Tsav intervient avant la paracha de Vaïkra. D'ailleurs, elle ressemble à une autre paracha au niveau du titre, qui est justement la paracha de l'inauguration du Mishkan.
Tetzavé.
Exactement. Et c'est exactement ce que va nous dire le Rav professeur David Zvi Hoffman. Le Rav David Zvi Hoffman nous dit dans son commentaire de la Torah que la paracha de Tsav a été donnée juste après la paracha de Tetzavé. Alors pourquoi est-ce qu'elle a été dictée ici dans Vaïkra? Parce que dans Tetzavé, on est là pour nous apprendre comment on met en place la Shrina, dans la théorie, La paracha de Tzav, ça va être la mise en pratique. D'accord ?
Oui. Pekoudé, c'est aussi la mise en pratique.
Oui, tout à fait. Oui, mais Pekoudé, on ne fait pas encore. D'abord, tu aurais pu me dire, il y a quel plus que Pekoudé ? Pekoudé, on fait le décompte de ce qui a été fait pour créer le Mishkan. Pas encore la Avodat à Mishkan. Ok ?
Oui. Le Mishkan, il a été créé quand on était au pied du Mont Sinaï ?
Oui. D'accord. Ok ? Donc, nous sommes face à une paracha qui est antérieure à la précédente, mais qui a été marquée après. Lama. Eh bien, pour la simple raison que lorsque nous avons étudié dans le livre de Shemot les parachiotes de Terouma et Tetzavé, on a expliqué ce concept qu'il y avait des parachiotes qui étaient plus de style Moshe et des parachiotes qui étaient plus de style Aaron. Vous vous rappelez de cette dualité entre la Torah de Moshe et la Torah de Aaron? Une Torah l'idéal et la réalité. C'est-à-dire, ouais. Moshe, c'est l'idéal, Aaron, c'est la réalité avec toutes ses problématiques. D'accord ? Une descente, pragmatique plus. Et donc, on a vu Trouma, c'était l'idéal, tu savais, bon. Une paracha plus aaronique. Eh bien, Vaïkra, pareil, c'est une paracha moshite.
Mosaïque.
Moshite. C'est bien, Mosaïque. Et Tetzavé est une paracha aaronite. T'as un autre mot ?
Ça va
bien.
Donc,
ça. Donc, ça, eh oui. Parce qu'on avait dit, la paracha de Terouma, comment ça commence ? Yikrouli Terouma, met koli shechari devenu libo. Ça vient du cœur. Paracha de Tetzavé.
C'est l'obligation.
Obligation. Terouma, c'est Moshe. Moshe, il pense que idéalement les gens ils vont le donner. Tetzavé, Aaron, on est plus dans le pragmatisme. Si tu leur dis pas de donner, ils donneront pas. Donc dis-leur de donner. Et bien là, pareil. La dimension de Tzav montre qu'on est dans une dimension beaucoup moins idéale. Pareil dans la paracha de Vaïkra. Alors qu'on va relire les mêmes corbanotes, eh bien ils ne sont pas dans le même ordre. Dans la paracha de Vaïkra, le corban qui est mis en dernier, les corbanotes qui sont mis en dernier, c'est les corbanotes de Khatat et Hacham. C'est-à-dire les corbanotes dues à des fautes. Parce que dans la paracha de Moshe, on ne faute pas. Et si on faute, c'est à la fin. Dans la paracha de Aaron, on commence par les corbanotes Khatat. Ça donne ? Donc on a deux dimensions différentes qui font face à deux réalités différentes. L'idéal face au concret. D'accord ? Alors c'est bon, on peut revenir maintenant sur le verset. Donc, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Tzav et Aaron vet banav les morts. Zot Torat a Ola. Ah, on a dit que c'était que Khatat au début. Oui, non, c'est Ola. Pourquoi c'est Ola? Alors, c'est aussi dans Parashat Vaïkra, c'était aussi Ola. Donc, il va falloir voir s'il y a une différence entre la Ola de là-bas, de Vaïkra, et la Ola d'ici. Alors, on va voir. זאת תורת העולה היא העולה על, על, על מוקדה, סליחה, על מזבח, על המזבח כל הלילה, אשר הבו, על הבוקר ואש המזבח תוקד בו. ולבש הכהן מידו בד ומכנסי בד, ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. טוב, פרונסטון, ריאן נובו, ריאן נובו סולסולי. הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור. אבל פורקווה, דונק פרי, איבה אחרי אברפה לקורבן עולה, איבה שנג'ה. לכהן. מישהו כהן, איבה שנג'ה. לא, אבל זה אותם כי לפה לטריק. פורקווה איבה שנג'ה אחרי אברפה סט עבודה לה. הוא סבי בא כי איבה אלה שנג'ה. פורקווה איבה אלה שנג'ה. איבה אלה שנג'ה פסקו זה קשה קורבן עולה. Parce que Corban Ola, qu'est-ce qui lui arrive au Corban ?
Il est brûlé.
Complètement brûlé.
Ouais.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire après ?
Faut
jeter les cendres. C'est-à-dire, je reprends le verset, c'est ce qu'il nous dit quand il nous dit « Ve'otzi et adeshen el michutz la machane ». Mais adeshen, c'est tous les déchets.
Il risque de salir.
Et ça va, il risque pas. Il va salir. C'est ma'atzben.
Peut-être ça l'impurifie ou pas ?
C'est pas que ça l'impurifie.
Non.
Ça le salit. Ah, il va falloir qu'il aille après nettoyer. Enfin, c'était tout.
Non.
Il n'y a pas de machine à l'époque. Ah, et je te rappelle que si j'ai une tâche, je ne peux plus servir au Beth Amikdash.
Ouais, c'est ça.
C'est saoulant. Nachon. Donc, va être
ça. Il peut emmener ça dans un endroit pur.
Ken, mais comme Taor, il y a un endroit qui s'appelle Srefat HaDeshen, qui est Michutz Lamachane, au nord-est du Beth Amikdash. En dehors du camp. Enfin, là, en l'occurrence, du camp d'Israël, mais à l'époque du Beth Amikdash, il y avait un endroit qui s'appelait Makom Srefat HaDeshen.
C'est là où il y avait les machines à laver,
c'est ça? Voilà, c'est là où il y avait les machines à laver.
La mer d'Oni.
Là?
La mer d'Oni.
La mer d'Oni.
Il n'y avait pas de
machine
à laver, il y avait la mer d'Oni.
Ah ben, c'est ça. והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר וערך עליה העולה והקטיר עליה חבלי השלמים אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. Là on apprend aussi quelque chose de fondamental, c'est que האש על המזבח הוא אש תמיד. Et ça aussi c'est pas facile. Ça veut dire que monsieur Cohen, une fois que tout le monde a été dormir, lui il continue à bosser. Et le matin, avant que tout le monde se lève, lui, il doit bosser. Parce qu'il faut que le feu du Misbéar, il soit toujours alimenté.
C'est-à-dire qu'il ne dort jamais, il se relève.
Non, il n'est pas tout seul à bosser au Beth Amikdash.
Il y a
des équipes. Mais c'est saoulant. Donc la question saoulante, eh ben, ici, elle est traitée en premier. Parce que tsav. D'accord ? L'antirbe. Esh tamid tukal amizbéar l'antirbe. Vezot Torah tamincha. Akrev ota bnei Aaron nifnei Hashem el pnei Hamizbeach. Donc là aussi, Torah ta mincha, on connaît déjà, on a déjà vu. Mincha, c'est quoi? C'est solet. C'est du végétal. D'accord? C'est du végétal. On avait expliqué à l'époque comment est-ce que le Kohen fait tout ça. Là, qu'est-ce qu'on dit? Veirim imeno bekumtso misolet amincha o mishamena veet kol alevona asher al amincha veiktir amizbeach reach nichoach askarata להשם. והנותרת ממנה יוכלו אהרון ובניו מצות תאכל במקום קדוש בחצר או אל מועד יוכלוה. Donc, il y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'on en parle ici? Nous dit la Torah qu'on ordonne là où il y a chesron kis. Là où il y a un risque pour ton... Hein? Alors on te fait un ordre parce que tu es moins prompt à donner et à faire... quand ça va te porter préjudice. Korban Amincha, vous vous rappelez comment on doit faire? Il y a le solet, donc on amène, la personne elle amène le korban, ou alors quand c'est korban tzibour, et le Kohen il fait quoi? Il prend avec sa main, et il va faire comme ça.
Ah, oui, oui, c'est ça.
Vous vous rappelez?
Oui, oui.
Et c'est ce qui reste dans sa main qui est pour lui. Je peux faire un peu moins, un peu plus. Donc c'est tzav. D'accord? On peut pas être mal à saute. Dans la paracha de Terouma, de Vaïkra, on n'a pas mis l'accent là-dessus. Parce qu'on pense que idéalement il est bien. Mais là, compliqué. Va noter, attendez. L'autre a fait Hametz, Chelkam, Netati, Ota, Misha, Isra, Kodesh, Kadashim, Hi, Kachatat, Vekasha. Oh oh. Là, on vient de m'enseigner un truc comme ça qui a l'air de passer comme Alas. Korban Ola Vemincha, c'est Kodesh Kodashim. C'est Kodesh Kodashim, ce qu'on appelle. Mais je ne savais pas que Khatat Vehasham, c'était Gam Kodesh Kodashim. C'est intuitivement, c'est pas ce que j'aurais pensé. Que Korban Khatat, Korban Hasham, c'est quand je fais quelque chose de pas bien. Donc ici, dans Parashat Tzav, on voit que la dimension de celui qui fait Tshuva, hein, c'est Kodesh Kodashim. Et on ne peut pas parler de ça dans la Parashat Vayikra. On en parle dans la Parashat Tzav. D'accord? Kol zachar mivnei Aaron yochalena chok olam medorotechem miyishe Hashem kol asher yiga bahem yikdash. Vedaber Hashem el Moshe lemor ze korban Aaron ubanav asher yakrivu lehashem biyom himmashach oto asirit ha'efa solet mincha tamid machatzita baboker umachatzita ba'erev al machavat bashemen ta'aseh murbechet תביינה תופני מנחת פיתים, סליחה, תקריב ריח ניחוח להשם. Là, on efface un corban qu'on ne connaît pas. On ne l'a pas vu dans la parasha de Vayikra. C'est ce qu'on appelle minchat chavitin. Minchat chavitin, c'est le premier corban qu'amène tout Kohen qui corbanise pour la première fois. C'est-à-dire son corban d'intronisation s'appelle corban minchat chavitin. C'est pas un corban que quelqu'un a amené, c'est lui qui doit amener ce corban-là.
Ça veut dire quoi?
Quoi? Mincha Travit Zemincha, oui. Qui se fait sur la marvat.
Marvat, c'est
La casserole, la poêle. Sur la poêle. D'accord. Ok ? Donc c'est les crêpes.
D'accord.
Les crêpes de seigle.
Ah, d'accord.
Alors, il fait ses crêpes de seigle, pas de seigle, de semoule. Crêpes de semoule.
C'est une explication pourquoi c'est ça et pas autre chose.
Bah, d'abord, Mincha, on sait que c'est solette. Oui. On a déjà vu, on avait expliqué la dernière fois. D'accord. Pourquoi est-ce que le Kohen, oui, il doit commencer par cela ? Bah, parce que justement, on ne va pas lui faire commencer par un korban BMA. Tu n'es pas encore au niveau. Doucement, doucement. Prendre la vie d'un épi de blé, c'est quand même moins, ça demande moins de tahara pnimit que de prendre la vie d'un animal.
Ah, c'est ça.
Donc on commence, mincha travité. On va voir ce que tu veux. Ça va ?
Oui. La moitié le matin, la moitié le...
D'accord, bah, parce que le Kohen, il a pour rôle maintenant de servir les korbanes tamid. Et Tamid, c'est Tamid Shel Shachar et Tamid Shel Ben Arbaim. Donc il doit être montré qu'il est capable de remplir son rôle et Maratito Baboker, Maratito Baer.
C'est le même.
Quoi ?
C'est le même qui vient, je veux dire.
C'est le même Cohen.
Il fait de Mishmarot.
Son intronisation, son premier Corban, il se fait en deux fois. Le même jour. Oui ?
Et c'est le même, c'est les mêmes équipes de Cohen qui font Corban du matin et Corban du soir.
Ah, ça n'a rien à voir avec... là, je te dis, ça, c'est Corban en Mincha Travitil. C'est tout Cohen, son premier Corban, c'est celui-là. Oui. Maintenant, tu poses une autre question de manière plus générale. Comment ça marche, les équipes au Beit HaMikdash ? Eh bien, il y a ce qu'on appelle Mishmarot Keuna. Chaque semaine, c'est une autre Mishmeret. Il y a 24 Mishmarot Keuna dans le peuple juif. Donc, tous les Kohanim sont divisés en 24 équipes. Chaque mishmar.
Il y a une raison. Enfin, je ne veux pas couper les délais.
Oui, c'est des familles. C'est des grandes familles.
Donc,
ok.
Le chiffre 24, c'est une raison.
Il y aurait plutôt 12,
non ? Les Kohanim.
Ça fait deux par famille.
C'est, tu vois, pourquoi ? Pour les 12 tribus ?
Non, pourquoi 24 ? Oui, c'est ça. Il y a,
pourquoi 24 ? Je veux si, il y a une raison évidente. Parce que c'est les 24 siffrés à Tanakh.
Ah.
La névoile se dévoile en 24 livres. Maintenant. Les Kohanim, donc ils ont 24 Mishmarot. Dans chaque Mishmeret, il y a 7 Baté Av. Donc la Mishmar, elle dure une semaine. C'est pas tout le monde qui bosse toute la semaine. Chaque jour, il y a une autre famille qui bosse.
C'est pas une semaine, une famille, une semaine.
Non, c'est plus qu'une famille, parce qu'il faut plus de monde. Donc c'est une Mishmar, une garde toute la semaine. Dans cette garde, il y a 7 familles. D'accord ? Maintenant, lorsque c'est ton jour de ta famille, ce jour-là, tu n'as pas le droit de boire la veille. Ni ce jour.
Oui, oui.
De boire ?
Ben oui, tu n'as pas le droit de boire du vin.
Ah, du vin.
Ben, qu'est-ce que vous buvez ?
De l'eau.
Vous buvez quoi ?
Du coca.
Du coca ?
C'est encore plus dur de ne pas boire de
boire. Je comprends pas. Non, on vit dans une société où les gens, ils boivent de l'eau. À l'époque, on ne boit pas d'eau, on boit du vin. Donc... le jour de ta bête ave, tu n'as pas le droit de boire.
La veille,
évidemment. La veille non plus, le lendemain non plus. Pourquoi ? Au cas où tu as besoin d'un tikbour. Au cas où l'autre bête ave, elle a besoin, parce qu'il y a tout d'un coup, il y a plein de monde qui arrive. D'un renfort. Donc tu dois être prêt à pouvoir servir. Ok ? Maintenant, le reste de la semaine, tu peux boire le soir, mais pas la journée. Pourquoi ? Bah de peur qu'il y ait quand même besoin de plein de monde. Donc tu dois être quand même la journée sobre pour pouvoir bosser.
Et même les Kohanim, en général, ils ne doivent pas...
Bon.
Ils doivent pas abuser de...
Bah, personne ne doit abuser.
Mais, c'est explicitement dans la Torah.
Quoi, que les Kohanim, ils ne doivent pas boire ? Non. Toi, tu parles, quand il veut le Kohen Gadol, il va rentrer dans le Kodesh à Kodashim.
Non, pas seulement, mais je veux dire, après la mort des fils d'Aaron...
Oui.
Il y a des instructions spéciales.
Oui,
pour les
pourquoi
et même, je veux dire,
non, il y a des instructions spéciales pour quand tu vas rentrer à Bakodesh, à Daron. Donc effectivement, le Kohen Gadol, il n'a pas le droit quand il va rentrer à Bakodesh. Mais ce n'est pas Stam tous les Kohanim. Quand un Kohen est invité à un mariage, il ne boit pas. Il boit. Agave, les Rabbanim non plus. Ils ont le droit de boire, mais il ne faut pas qu'ils soient bourrés toute la journée. De là, il y a une halakha qui découle. De là, on apprend que les Rabbanim, ils boivent. C'est quoi ? C'est que tu n'as pas le droit de poser une question de halakha Shabbat après-midi au rab. C'est assuré.
Ah bon ?
Ben oui. Ah oui. Ben, parce qu'il a bu. Il a forcément fait kiddush. Donc il a forcément bu. Donc quelqu'un qui a bu, il ne peut pas te répondre de la halakha. Donc tu peux pas faire, tu peux pas demander à un rabbin une question de halakha Shabbat après le kiddush parce que forcément il a bu.
C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de birkat
kohanim. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de kohanim, de birkat kohanim à mincha. Parce que à mincha, c'est qu'ils ont, ils ont forcément bu. Donc tu vois, les jours de jeûne, comme tu sais qu'ils n'ont pas bu, alors tu peux faire. Ok ? Ben oui. Un jour, le Rav Cherki m'a raconté, il était à Chevron Shabbat, et il avait une question à poser au Rav Dov Lior. Et il dit, le seul moment où je vais le trouver, c'est après la synagogue le Shabbat matin. Et donc, il a été prié, machin, et après Shabbat, il y a eu Kiddush, machin, et après Kiddush, il a pu l'attraper, il a dit, voilà, j'ai une question. Et il a posé la question, le Rav Lior, il a répondu. Après, une fois qu'il a répondu, le Rav Cherki lui a demandé, il a dit, mais comment t'as pu me répondre ? Et tu viens de faire Kiddush, t'as pas le droit de répondre. Et le Rav Dov Lior, il a répondu au Rav Cherki, il a dit, Kodem Kol, premièrement, le vin d'aujourd'hui, il est beaucoup moins fort que le vin d'avant.
Oui,
c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai pas beaucoup bu. Combien j'ai bu ? J'ai pas beaucoup bu. Et troisièmement, c'était du jus de raisin.
Non, mais par exemple,
c'est meilleur pour la fin.
Ouais. Toi, par exemple, si quelqu'un vient te poser une question à l'Alaha, il ne sait pas, comme nous, on ne savait pas, ouais. Tu lui expliques que, il peut pas, que tu ne peux pas répondre.
Soit, si, ou alors je n'ai pas bu, alors à ce moment-là,
non,
je peux
répondre. Non, mais si jamais tu as bu.
Bah, si jamais j'ai bu, il va bien voir que je dis n'importe quoi.
Non, mais il le sait. Non, tu lui dis quoi ? Tu lui dis cette halakha qu'on n'a pas le droit ?
Il va, bah, si je ne suis pas dans un état où je peux répondre, il va bien le voir.
Non, hein. Mais
quand je pense que toutes les questions qu'on t'a posées, ça va être plus mal. Il répond à ce moment.
N'oubliez pas que Hakol
Beseder. Si on vient Shabbat te poser une question,
faut pas.
Si je ne veux pas répondre, je ne répondrai pas. Ça veut dire. Hakol
Tov. Non, mais tu expliques cette halakha.
Déjà faire un cours, on va la tester.
Est-ce que tu peux expliquer cette halakha ?
Mais on peut expliquer cette halakha. Et je répondrai comme le Rav Lior, il a dit le vin de l'époque, ce n'est pas le vin d'aujourd'hui. Deuxièmement, c'était il y a longtemps le repas. Troisièmement, j'en ai pas bu beaucoup. Quatrièmement, c'était du jus de raisin, il y avait du coca.
Genre. Et puis cinquièmement, après la sieste, on peut.
Ah, après la sieste, tu peux. Ou alors après un petit tioul.
Le cours, c'est la sieste.
Oui.
Voilà. Pour qui ? Pour toi ou pour moi ? Si seulement. Bekitsu Robotai. Donc, ça, c'est Korban Mincha Travitin, l'intronisation du Kohen dans son boulot. Ok ? Va Kohen à Mashiach. Tartav mi banav, yase ota chok olam la Hashem kalil toktav. Enfin, c'est pas que Stam Kohen, le Kohen Gadol, quand il devient Kohen Gadol, il doit faire aussi un Mincha Travitin. C'est comme une nouvelle inauguration. D'accord ? C'est un autre statut. Nachon. Vechol Mincha Kohen kalil lo teachel. C'est ce korban Mincha. Il a une particularité, il est brûlé complètement. C'est-à-dire que les autres minchas, il peut prendre une partie, celui-là, il est complètement brûlé. D'accord ? C'est pas pour lui, c'est pour Akadosh
Baruch Hu. C'était pas tous les jours, en fait, pas forcément tous les jours.
Ah ben non.
C'était seulement quand il y en avait un nouveau.
Ben oui. Ah. Ça dépend après des générations. Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins.
Il y a des jours où il y en a plein qui arrivent.
Ben, est-ce que à l'époque, il faisait que tous les Kohanim qui sont de 82, eh bien leur inauguration sera ce jour-là. Peut-être qu'ils ont décidé de faire tous ensemble. Ou alors c'est à chaque fois qu'il devient apte à travailler. Tu es apte à travailler à l'âge de 20 ans pour servir au Beth Amikdash. Ouais. Donc est-ce que c'est chacun à son anniversaire de 20 ans ? Je ne sais pas comment il faisait à l'époque. On va te dire. C'est-à-dire ? Tu rentres en service à 20 ans. Ok ?
De 20 ans à...
À 50 ans.
À 50 ans.
Pourquoi
50 ans hein. Après,
t'es vieux. C'est la retraite maintenant.
Non, mais c'est un travail de force. Hein.
C'est avant, aujourd'hui, il est plus vieux.
Après.
Non, mais c'est 64.
Hein, c'est
même dans la Torah de Moshe.
Les BMO, c'est un travail.
Quelqu'un après 50 ans, t'imagines s'il a la tremblote pendant qu'il doit amener le truc. C'est compliqué.
On a plus que 50 ans.
Pourquoi tu
l'as fait
50 ans ?
Pourquoi
tu sais pas ce que c'est que...
Oui, c'est ça.
Mais toi, on voit que tu sais pas ce que c'est que bosser au Beth Amikdash tous les jours.
C'est la même chose pour le Kohen Gadol.
Non, le Kohen Gadol, c'est Chok Olam.
Oui, parce qu'il avait un travail à Kippour et il fallait voir une.
Ah ben bah, s'il n'est plus capable, il va remettre un autre.
S'il avait un travail.
Voilà, saute. Bah, c'est ça
oui, il avait la garantie de l'emploi.
Il avait la garantie de l'emploi.
Et certains pouvaient relancer.
C'est quoi relancer ?
Renoncer.
À renoncer à quoi ? À être Kohen ?
Ou à
servir.
À servir,
quoi.
C'est une bonne question, ça. Ouais, est-ce qu'un Kohen, il peut dire « j'ai pas envie de bosser » Alors,
non,
il va faire quoi,
c'est la question par rapport au
sacrifice à 200, de choses comme ça et tout, je veux dire, on peut très bien.
Tu dis, il n'est pas capable.
Ouh, il n'est pas capable.
Il n'est pas capable, donc. Ouais. Soit physiquement, soit mentalement. Bah, j'imagine que s'il n'est pas capable, il a un mot de son médecin, il ne le fait pas. Non, c'est-à-dire, il y a plein de choses qui vont faire qu'un Cohen, il ne peut pas bosser au Beit HaMikdash. Il y a plein de listes de choses qui sont mentionnées, comme quoi un Cohen, il ne peut pas bosser au Beit HaMikdash. Exemple, un Cohen à qui il manque un membre, il ne peut pas bosser au Beit HaMikdash. Un Cohen qui est borgne, il ne peut pas bosser au Beit HaMikdash.
Mais lui, de sa propre décision.
Ah. Donc toi, tu me dirais, moi, je suis Cohen. Et j'arrive pas à voir le sang, j'y arrive pas, machin. Et ben effectivement, j'imagine que il ira voir le médecin du Beit HaMikdash.
Et si seulement il se sent pas fait pour ça, sans avoir.
Oui, il se sent pas fait pour ça. D'ailleurs, rappelez-vous quand même que les Kohanim, ils bossent au Beit HaMikdash 2 semaines par an. Et encore, ils bossent pas vraiment les 2 semaines. Ils sont de Kohenout les 2 semaines et ils bossent 2 jours. Et il y a les fêtes aussi. Les fêtes. Il y a les fêtes et en plus des fêtes, 2 semaines par an. En gros, il y a un mois par an où ils sont en Beit HaMikdash. Ah oui, non, mais ça demande des forces physiques, attention. Donc c'est possible que tu n'as pas les forces, donc tu bosses pas. Ou alors tu fais d'autres trucs. Il y a des boudos qui sont moins durs que d'autres en tant que Cohen.
Le reste de l'année, ils font quoi?
Ils enseignent la Torah.
Donc c'est les rabbinines d'aujourd'hui.
Non. Tous les Kohen étaient érudits en Torah à l'époque.
Ben, ils font quoi sinon toute l'année? Ils tournent les pouces?
Non, ils peuvent avoir un commerce par exemple.
Ils peuvent aussi travailler. Mais qu'est-ce qu'on attend d'eux? On attend d'eux qu'ils soient là pour enseigner au Bnei Israël. Ben non, c'est pour ça qu'on les paye. Les Kohanim, ils reçoivent quand même la Trouma. Donc on te donne une parnassa. Tu me dis je veux une parnassa en plus. Aujourd'hui les Kohanim vont bosser. Mais à l'époque... Si on te donne une parnassa pour que tu nous enseignes et qu'en plus tu dis j'ai pas le temps, je dois aller bosser. Pourquoi ils s'occupent des mikvot? Pourquoi plus que d'autres?
Non.
Pas forcément. Je vais te dire, en Israël, le rabbin, il a un statut qui est complètement différent qu'en Chutz La'aretz. Ouais. Il y a plein de choses qu'en Israël, un rabbin, il sait pas faire. Pourquoi il sait pas faire? Parce qu'il a jamais fait. Ou alors il a rarement fait. Les enterrements. Je ne fais pas les enterrements, le rabbin. C'est principalement les enterrements. Enterrement en Brit Milot. Pas de Brit Milot, le rabbin. Alors, ils ne sont pas tous Moalim. Mais quand il y a la Brit Mila, il y a le rabbin qui est là, qui va faire un Dvar Torah. Il est là dans la communauté. Ça ne se fait pas une Brit Mila à la maison. C'est à la synagogue, avec le rabbin. L'enterrement, il y a forcément le rabbin qui va faire les spédim, qui va faire le truc, parce qu'il n'y a personne d'autre qui connaît.
Qui fait les spédim aussi?
Les spédim en général, c'est la famille. Oui. Mais ceux qui s'occupent de l'enterrement de A à Z, c'est la Chevra Kadisha. Oui. Le rabbin n'est pas au courant. Il n'y a pas de communauté comme ça. On a vu ça, malheureusement, les 10 derniers jours.
Il y a les mariages, quand même.
C'est... Alors, le mariage, c'est-à-dire, mais est-ce que c'est le rabbin de la communauté? Pas forcément.
Non, les mariages en Roussarès, c'est la synagogue, ici, c'est dans les hôtels. Ou dans les...
Par exemple, plus forcément aujourd'hui.
Oui, c'est rare.
Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a plein. En Israël, le rabbin, il s'occupe de Torah. C'est tout, c'est ça qu'il fait, il enseigne la Torah. Il n'a pas les mêmes obligations communautaires que. Alors, je ne dis pas, ici, avec Mouna, on a recréé une communauté. Donc, le rabbin Ishaï, il a aussi les obligations communautaires. Mais effectivement, ce qu'on attend du rabbin, c'est d'abord avant tout qu'il enseigne la Torah. Et c'est pour ça que le niveau de Torah des rabbins d'Eretz Israël a toujours été différent de celui de Routz Laret. Mais je sais pas, je dis pas ça forcément les gnailles. Je veux dire, quand tu es rabbin en Routz Laret, tu n'as pas le temps d'étudier la Torah. T'es occupé toute la journée.
C'est payé par le consistoire ici, qui sont payés.
Oui, ça c'est un autre truc. C'est, tu ne peux pas vivre de ton métier de rabbin en Israël. Ça c'est vrai.
Disait que j'ai cru entendre, je crois que c'est le rapide truc. Il disait qu'il étudiait quand il était en déplacement en voiture, puisqu'il se faisait conduire.
T'imagine.
Et là, il étudiait.
C'est pas la même chose que. Voilà, et voilà ça. Et voilà ça. Tom, Iné. Vezaber Hashem el Moshe le mort. Daber el Aaron vel banav le mort. Zot Torah ta chatat. Iné. Maintenant qu'on a mis en place les korbanot de Ola ve Mincha plus Minchat Chavitin. Pour mettre en place, introniser le Kohen. Et évidemment, pourquoi est-ce qu'on parle de l'intronisation des Kohanim dans la paracha de Tzav? Parce que c'est la paracha des Kohanim. Donc forcément, c'est là qu'on va en parler. Mais là, maintenant, on peut parler de Khatat. Zot Torah Khatat, bimkom asher tishachet ha'ola, tishachet ha'khatat, lifnei Hashem, kodesh kadashim, hi. Donc on a dit, Khatat c'est kodesh kadashim. Pourquoi on le fait à l'endroit où on fait le hola? Pourquoi est-ce qu'on sacrifie le korban khatat au même endroit où on fait le korban hola? A priori, ça n'a rien à voir. Ben justement, pour ne pas faire honte à celui qui amène au korban khatat. Pas lui faire honte. Donc, on pourrait penser qu'il amène un korban hola. C'est ça? תשחט העולה, תשחט החטא, תבנה השם קודש קודשים היא. הכהן המחטא אותה יוכלנה במקום קדוש, תאכל בחצר או אל מועד. וכהן ימונש לקורבן חטאת בחצר או אל מועד, תנדון על בית המקדש, כל אשר ייגע בבשרה יקדש. ואשר ייזה מדמה על הבגד אשר ייזה עליה תחבס במקום קדוש. הוא צריך כלומר כי סקונקט או קורבן ידוויה קדוש. Ce qui est complètement différent de la réalité de la Touma.
C'est le Kohen qui devient Kadosh?
Non, bah lui, il est déjà Kadosh, parce que sinon, oui. Il ne pourrait pas manger. Mais si toi, tu touches à cette viande, t'as mis de Kadesh. Par exemple, le Kohen, il a fait le Korban et il a invité son fils à manger avec lui un steak. Le fils qui vient de tout le monde de manger le steak, on mit de Kadesh. Et ça, c'est la grande différence avec la Touma et la Tahara. Quand tu es tahor, si tu touches quelque chose de tamé, qui c'est qui gagne?
Tamé.
Mais dans la kedusha, si tu n'es pas kadosh et que tu touches un truc kadosh, tu deviens kadosh. Ok? C'est la différence. A kedusha c'est ma'ale, a touma c'est mori. D'accord? Ou kli cheres asher tevushal bo yishaver. ואם בכלי נחושת בושלה, מורק ושותף במים. Donc si jamais tu as mangé ton korban khatat dans un ustensile en argile, qu'est-ce que tu fais avec cet ustensile après? Tu le détruis. S'il a été cuisiné dans un ustensile en cuivre, tu peux le cachériser. Pourquoi
cachériser?
Ben voilà, pourquoi cachériser? Pourquoi le jeter? Qu'est-ce qu'il y a?
Mais c'est cadeau, je te dis.
Ah ouais? Bah, mais quel est le problème? C'est que le kli.
Ah oui, le kli devient kadosh.
Et alors, bah, je peux manger un autre korban dedans. A priori. Ça va être un kli de korban. Ah. Abaya. Ah. Non, yesh baya. Parce que le kli, on a cuisiné dedans. Donc le tam du korban, il a été baloua bakli. Intégré dans le kli. Et alors, quel est le problème? Bah, le problème, il est qu'un korban, après 3 jours, ou pigoul, l'oïratse. Tu ne peux pas garder un korban trop longtemps. Il y a un moment donné où ça ne marche plus. Donc, vu que ça ne marche plus, il faut que tu enlèves le goût du korban du kli. Donc, soit tu peux le cachériser. Si ça a été fait en cuivre, tu peux le cachériser. Mais un kli cheres, tu ne peux pas le cachériser. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le jettes.
Tu le casses.
Il chavère. Pourquoi est-ce qu'on pense que d'habitude dans la Torah elle fait attention aux pépettes du peuple juif? Quoi, à chaque fois tu casses l'assiette, tu casses le pot, la poêle? Ah oui, parce que c'est un kli cheres. Ça demande pas d'argent de faire un kli cheres. Comment tu fais un ustensile en argile?
Tu prends de la terre.
Tu prends de la terre, de l'eau, tu mets au four.
C'est rien par rapport au prix du korban.
C'est rien par rapport au prix du korban, mais c'est rien du tout, bichlal.
C'est rien. Non, voilà, c'est
dans une société qui savait le faire. Tu fais des kélim en argile, en une heure c'est fini, c'est réglé. C'est-à-dire, donc c'est pour ça qu'on n'a pas peur de te dire Yishavé. Kol Zahar, aujourd'hui on n'aura pas ce problème-là parce que tous les kélim ils seront en aluminium, ils seront en eurostat, ils seront en je sais pas quoi, en pyrex, en bombe. Non, tu ne peux pas cuisiner dans le bon. Tu peux cuisiner dans le bon? Non. Donc voilà, une chose est sûre, c'est qu'on ne cuisinera plus dans les ustensiles en cuivre parce que c'est dangereux pour la santé. Kol zachar v'kohanim yochal ota kodesh kadashim hi. V'chol chatat asher yuvad middama el oel moed lechaper v'kodesh lo teachel ba'esh tisaref. Zeh ha korban chatat, version parashat tzav. qu'est-ce qu'il en sera du Corban Hacham?
C'est quoi Tiaret?
Eh bien, c'est ce qu'on verra la prochaine fois.
C'est quoi Tiaret?
Quoi?
Non.
Tissaref. Tissaref sera brûlé.
Brûlé.
Chazak ou Barou? Ben oui.